Bonjour, vous êtes sur 88.4 sur Radio Galère, vous êtes avec Waka et Polo pour l'émission Confie-toi. On est au 5e numéro et on est le samedi 25 avril 2020 et il nous reste encore au moins 2 semaines avant la fin du confinement, peut-être, et ça sera peut-être pas un confinement, bah ça sera pas vraiment la fin, ça sera pas totalement. On va pas retrouver le monde qu'on avait avant, ça c'est sûr. Et on sait pas trop ce à quoi s'attendre. Et ça a pas l'air très joyeux. Donc, Polo, est-ce que tu as envie un peu de te présenter, expliquer ce que tu vas faire?
Bonjour, c'est Polo et vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Aujourd'hui, j'ai préparé beaucoup de choses. Du coup, je vais beaucoup parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, merci à Erika de me laisser toute cette place sur son émission. Et à tout à l'heure.
Merci à toi, Polo. Avant de passer à ta chronique, on va peut-être parler de ton compte, parce que on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y aura ta chronique, il y aura ton compte, un compte queer, pour les enfants queer. Et il va y avoir aussi la lecture de Monique Wittig, que par ailleurs, si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous savez qu'il y avait le premier volume, et là ça va être le deuxième volume. Mais il y aura aussi une partie d'une émission de l'étude nocturne que vous allez découvrir, l'étude nocturne de Amy, c'est une partie de son émission. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir. Mais avant, on va te laisser parler de ton compte et pourquoi, et ensuite on l'écoute, si ça te dit.
Donc ce compte, je l'ai tout simplement intitulé « Compte pour enfants queer de tous âges ». Et ça parle d'un voyage à l'intérieur de soi. Je peux pas forcément en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est un voyage à l'intérieur de soi. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça contrebalancera toutes les mauvaises nouvelles que j'ai à vous apprendre en fin d'émission. Bonjour, c'est de nouveau Polo et vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4. Et on est ici pour lire ensemble un conte que j'ai écrit, qui va parler d'émotions, qui va parler d'affronter ses peurs, de se rencontrer soi-même. Et que j'ai intitulé « Conte pour enfants queer de tout âge ». Et donc on va suivre les égarements de Mika, qui est à la recherche d'une discussion avec soi-même. Que fait-on quand les émotions deviennent trop grandes pour notre corps ? Comme vous le savez, chaque histoire est un chemin, chaque vie une route, et chaque temporalité une direction. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui et tout au long de notre rencontre audiophonique. Du coup, on va suivre Mika. Pour l'instant, Mika croule sous son cœur qui est trop lourd à porter, trop pesant, trop présent, et parfois même trop pressant. Ses larmes la noient, son souffle l'étouffe, ses gestes l'entravent, et ses émotions finissent par l'ensevelir, bien trop souvent sous une couche compacte et inamovible de doutes. Et cette couche, elle va créer une écorce. Et cette écorce, elle va rester. Alors Mika reste sans bouger, sans parler, incapable de tourner son regard. Et ses mains deviennent feuilles, et ses pieds racines, et son corps est un tronc. Mika, qui est devenu arbre, profondément ancré au sol, se balance lentement et se regarde. Ses feuilles sont belles, elles sont douces, elles sont vertes. Ses racines sont puissantes et droites. Elles le tiennent en vie. Elles ramènent de l'eau, impulsent la sève, et la joie dans le nid d'oiseau qui s'est niché au cœur de l'arbre. Les intempéries ne sont rien quand on est ancré quelque part. Que vaut une tempête quand on est maintenu les pieds dans le sol? Que vaut la pluie quand on est protégé par des feuilles? Que vaut le froid quand on s'est renforcé jusqu'à devenir énorme? Et surtout, où part la peur lorsqu'on est terrifiant d'immensité? Pourtant, malgré tout ça, malgré cette carapace, l'arbre Mika ne se sent pas bien. Il y a une odeur de pourriture qui l'effraie, qui lui fait perdre ses feuilles et qui détériore ses racines. Mais que faire? Que faire? Que faire? L'arbre se tord les branches. Non, la douleur ne vient pas des autres. Non, ce n'est pas le vent. Non, ce n'est pas la pluie. Non, ce ne sont pas les éclairs. Ce ne sont pas les hommes non plus et leurs haches. L'arbre meurt et pourrit, sans comprendre. Mais d'où vient le mal? L'odeur est insupportable. Les oiseaux s'en vont, les nids sont vides. Il n'y a plus de cabane d'enfants, ni d'écureuils. Il ne reste que l'odeur de la mort. Et croyez-moi, un arbre si immense qui pourrait sur pied, eh bien ça pue. Et l'odeur se répand dans toute la forêt. Elle atteint les sommets des montagnes. L'arbre ne se voit plus, il ne pense plus, et il ne fait que se sentir. Pourtant ça bouge sous l'écorce, il ne veut pas regarder, il ne veut pas se pencher sur le problème. Parce que peut-être, oui peut-être, peut-être que s'il ferme les yeux très fort, très 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 fort, l'odeur disparaîtra. Alors il prie. Il prie tous les jours, du soir au matin. Ses yeux sont clos, jusqu'à la douleur. La sève coule de tous ses pores. Et ses feuilles, une à une, rejoignent le sol. Ses pauvres branches, dégarnies, tentent de les rattraper dans une danse pathétique, durant laquelle son tronc est lacéré, griffé jusqu'au sang, marqué au fer. Terrifié, de lui-même, l'arbre ouvre les yeux et se regarde. Il est ouvert en deux. Alors certaines branches redeviennent bras, se rallient à un torse de fortune, les yeux rayonnent et enfin, enfin, émerge Mika. Fatigué certes, mais en vie. Deux branches pour bras, deux racines pour jambes, des feuilles en guise de cheveux, un corps d'une dureté de bois et des graines dans les mains. Tout cela est bel et bon. Il va falloir replanter. Mika le sait. Mais il préfère pour l'instant affronter le spectacle de la pourriture. Répandu sur toute une partie de la forêt, il faudrait en anesthésier l'origine pour sauver le champ et planter de nouveaux semis. Du fond de la plaie suppurent des monceaux d'immondices qui s'échappent en suintant. Le trou semble si profond qu'un chemin pourrait s'y dessiner. Peut-être que le salut de la forêt est au bout. Alors Mika pense à une échelle et des interstices se créent dans le corps de l'arbre mort. En se penchant, Mika peut voir que le trou, immense, se perd dans la terre. Les interstices forment enfin une échelle et des cris plaintifs sortent du trou. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Alors, n'écoutant que son courage et enjambant le bord du reste du tronc, Mika s'accroche aux aspérités du bois et entame sa descente. Il fait noir, tout est chaud et humide, une musique s'élève.
De retour sur 88.4, vous êtes avec Waka et Polo. Donc, on a écouté le conte de Polo. Et merci Polo, c'était vraiment un chouette conte. Et vu tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, bah, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci, c'était très beau. Donc, on va passer à la laitue nocturne. Je vais un peu introduire pour vous expliquer c'est quoi le projet, le concept. C'est un extrait de l'émission L'étude nocturne qu'on va écouter tout à l'heure, préparée par Amy. Une émission de création sonore à retrouver sur les ondes de tous les espaces libres. Et vous pouvez aussi retrouver ça sur Mixcloud, c'est là où j'ai découvert ça. Et vous pouvez aussi retrouver L'étude nocturne sur Facebook. Du coup, cet extrait que vous allez écouter, c'est une création confinée. Et cannibale avec une copine trans, donc de Amy, celle qui l'a créée, qui a eu une envie sa copine trans, qui a eu une envie parfois de manger les gens non violents et encore plus dans cette période compliquée. Donc, entre guillemets, je vous explique l'histoire, entre guillemets, c'est pas moi qui parle, c'est plutôt Amy. Et si on parlait de ma pote qui a envie de manger sa cohabitante? Et c'est pas sexuel. Un conflit cannibale avec des culpabilités, des angoisses et des inégalités dedans. Franchement, des fois, les gens non violents, les gens qui ont la vie pour eux, les gens qui ont le temps de leur côté, j'aimerais pouvoir leur hurler dessus et les manger. Fermeture de la parenthèse. Donc, on écoute ça et merci à toi, Amy.
J'ai pas envie de... Ben, je sais pas trop comment on va faire ça. Petite laitue. Un peu confinée. Petite bête. C'est marrant que tu m'appelles, je pensais pas à toi. Genre de mon lit, là. Je vais peut-être me lever. Anne m'a dit que je pensais qu'à dormir alors qu'il fallait faire des choses. Et ça m'a vexée. J'étais pas bien prêt. Alors j'ai encore dormi, mais mal. C'est pour ça que je comprends pas. Je dors tellement que j'endors mal. J'aimerais bien parler des trucs qui n'ont rien à voir. D'autres choses. On pourrait par exemple parler de ma pote qui a envie de manger une de ses cohabitantes. Et c'est pas sexuel. L'étude confinée.
Des fois, franchement, les gens non violents, les gens qui ont la vie pour eux, les gens qui ont le temps de leur côté, j'aimerais pouvoir leur hurler dessus et les manger. Franchement.
Vous écoutez l'étude nocturne.
Et les manger. Et les manger.
Truc angoissant.
Ouais, mais on n'a pas tous les mêmes angoisses.
Ouais, mais c'est là où on débat.
Ok. Ah ouais, bah, moi je vous ai pas dit, mais je fais... Enfin si, toi je crois que tu le savais. Moi je fais des crises d'angoisse quand je dors des fois.
Habiter,
pas tout le temps, hein.
C'est quelque chose.
Ouais. Angoissant. Drôle, les trucs drôles.
Pourquoi se lever le matin? Est-ce que c'est encore le matin? Pour qui se lever cet après-midi? À qui donner la main? Comment se donner de l'énergie? Comment apaiser sa colère sans se voir? Comment vibrer des instants sans sortir? Pourquoi les gens courent quand je cours moi aussi? Quoi mettre aujourd'hui sur ce bout de papier pour excuser cette sortie? Pourquoi je n'arrive pas à les regarder? Pourquoi j'ai pas envie qu'on se regarde? Pourquoi l'oubli de quelqu'un revient demander son rappel? Comment ma tête choisit de penser à celles et ceux-là plutôt qu'à d'autres? Qui a pensé à moi sans prendre des nouvelles parce que c'est fatigant? Quand aurais-je envie de faire des choses? Pour qui je culpabilise si fort? Pourquoi je culpabilise si fort? Est-ce que c'est encore le matin? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Comment finir? Comment finir? Est-ce que c'est encore le mot? Comment finir? Pourquoi pas commencer?
Ouais, c'est vraiment le choc des mondes. Il y a des extraterrestres autour de moi et je suis une extraterrestre pour eux. Ça veut dire que leurs problèmes me sont inconnus et les miens sont pour eux des choses qu'on peut lire dans les œuvres d'Émile Zola ou ce genre de choses. Nous sommes des mondes qui ne vivent pas ensemble. On vit dans des univers séparés alors qu'on habite à quelques dizaines de mètres de distance. C'est incompréhensible. Des fois, franchement, j'aimerais pouvoir leur hurler dessus et les manger, franchement. Et j'espère aussi que ce confinement-là, au moins, il y a quelque chose de positif qui en sorte. J'aimerais, parce que je sais au fond qu'il y ait toutes les probabilités que ça soit très négatif et que ce sera beaucoup plus dur pour toutes les personnes qui déjà galéraient avant. Ça sera beaucoup plus dur pour les personnes qui avaient l'habitude, du coup, de s'organiser dans l'urgence. Ça sera beaucoup plus dur pour tout le monde. Et ça sera d'autant plus dur pour les personnes qui sont en bas.
Des fois.
C'est un effort incroyable de réussir à se comprendre.
Les gens non violents.
Et malheureusement, c'est rare que les personnes du dessus se penchent pour comprendre les personnes d'en dessous.
Les gens qui ont la vie pour eux.
Et comprendre leur vécu, comprendre les violences qui font que on est rarement des personnes non violentes et douces et mignonnes et gentilles et pédagogues et patientes quand on est en bas parce qu'on est révolté. Parce qu'on n'a pas le temps d'être pédagogue et que là...
Les gens qui ont le temps de leur côté.
Là, le temps, c'est un luxe de privilégiés. C'est un luxe de personnes qui en ont. C'est un luxe de personnes qui ont...
J'aimerais pouvoir...
Appris à en avoir.
Leur hurler dessus.
C'est un luxe de personnes qui...
Et manger.
Ont le temps de la lecture, qui ont le temps de la réflexion, qui ont le temps de prendre du temps, de prendre du temps pour tout ça. Là où beaucoup n'ont pas le temps, en fait. Où on est en colère, on est habitué à survivre, on est habitué à s'organiser du jour pour le lendemain sans savoir ce qu'on fait le surlendemain. Et malheureusement, on aura beau essayer de faire, on aura beau essayer d'être des personnes douces, pédagogues et d'aller vers les autres, quand les autres sont plus hauts que soi, c'est souvent que cette démarche-là même est violente. que notre seul fait d'exister est une violence pour eux, parce que tout ce qu'on, notre différence est compliquée à vivre pour eux, nos rapports aux autres est compliqué à vivre pour eux, la colère qu'on peut avoir contre la vie est une violence incroyable, inadmissible à leurs yeux, parce que leur propre existence a été tellement protégée de ces violences-là que nos vécus à nous sont... Bah, ça appartient aux œuvres de fiction, ça appartient aux banlieues, ça appartient aux personnes qui se prostituent pour survivre au bord du canal, mais ça appartient pas aux personnes qu'ils aimeraient avoir comme voisins. C'est triste.
Confiné.
Manger.
Les tue.
Franchement. Je ne pense pas que... À la fin du confinement, les gens qui sont propriétaires, qui vont bien, qui ont des problèmes qui me sont inaccessibles et incompréhensibles, se pencheront naturellement pour aller aider les personnes qui auront perdu leur boulot et qui seront dans une merde noire, qui seront d'autant encore plus précarisées et marginalisées. Je ne pense pas que tout ça arrivera naturellement.
Quand reviendra-t-il ? Qui suis-je ? Quand aurais-je envie de faire des choses ?
Pour qui je culpabilise si fort ?
Pourquoi je culpabilise si fort ?
Est-ce que c'est encore le matin ?
À quoi je sers ?
Pourquoi pas commencer ?
Quand reviendras-tu ?
À quoi je sers ? Est-ce que je suis égoïste ? Est-ce que j'ai des trucs à faire demain ?
Est-ce que j'ai le droit de rester terré au lit ?
Est-ce que j'ai le droit de te voir ?
Est-ce que t'en as envie ?
Est-ce que j'en ai envie ?
Pourquoi mon rythme ne suit-il pas la cadence ?
Qui se moque de moi ?
Quand aura-t-on la rue à nouveau ?
C'est marrant que tu m'appelles, je pensais pas à toi. C'est drôle que je pense à toi, j'avais pas envie de t'appeler.
Tu t'étonnes de rien, toi ?
Maintenant que j'ai un chez moi, je fais quoi ?
Et pourquoi je me sens mal d'un coup de m'y sentir bien ?
Et pourquoi parfois je me sens mieux de m'y sentir mal ?
Comment on fait enfermé ?
Comment on fera dehors ?
Qui a envie de danser ?
Pourquoi est-ce que je ne danse pas ?
Et comment on fait enfermé ?
On fera dehors ?
Et comment on fera dehors ?
J'ai la tête en salade et le sol est froid.
Est-ce que j'ai dit que j'avais un chez moi ?
Habité. C'est quelque chose.
Est-ce que je réalise déjà ?
Et pourquoi ?
Et qui ?
Et comment ?
Et quand ?
Et pardon, j'ai perdu le fil, je reviens. Doucement.
Confiné.
Manger.
Dans ma tête.
Franchement.
Doucement, le son
doucement
se fabrique.
Manger.
Dans ma tête.
Franchement.
Un temps. Puis ça repart. Confiné, fatigué, perdu de l'euphorie lugubre et peut-être encore un peu vivante.
Doucement.
Confiné.
Un temps.
Manger.
Dans ma tête. Puis ça repart. Confiné, fatigué. Perdu de l'euphorie lugubre et peut-être encore un peu
l'euphorie lugubre et peut-être encore un peu vivante.
Puis ça repart. Pourquoi se lever le matin ? Est-ce que c'est encore le matin ?
Doucement,
cet après-midi, dans ma tête.
À qui donner la main ?
Comment
doucement,
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 dans ma tête.
Franchement.
Doucement,
doucement,
doucement, dans ma tête.
Franchement. J'aimerais beaucoup être non-violente. J'aimerais beaucoup être non-violente dans mes rapports aux autres. J'aimerais beaucoup être non-violente dans mes mots. J'aimerais beaucoup être non-violente dans mes interactions et dans ma manière de communiquer avec les autres. Des fois, j'aimerais pouvoir être aussi calme, douce et sereine que eux peuvent l'être. Je les envie. J'envie, ils ont le monde pour eux. Ils ont cette capacité à vivre dans un monde qui leur ressemble. Ils connaissent des gens qui leur ressemblent et ils ne vivent qu'entre eux la plupart du temps. J'aimerais que mon existence ne soit pas sujet à discussion. J'aimerais que ces personnes-là puissent connaître d'autres personnes comme moi. Des personnes qui viennent d'en bas et qui ont vécu des choses très compliquées, qui n'appartiennent pas à la vie de tous les jours, qui n'appartiennent pas au discours commun. J'aimerais pouvoir avoir tout ça comme force pour réussir à être un jour comme eux et être considérée comme non-violente. Je suis fatiguée d'être violente, je suis fatiguée d'être perçue comme étant problématique et unsafe parce que j'existe. Le problème, c'est qu'aller leur demander de s'organiser parce que il va falloir qu'on s'organise pour l'après, pour les personnes qui vont perdre leur boulot, pour toutes les personnes, toutes les familles qui seront dans la dèche la plus totale. On sait très bien qui c'est qui va devoir s'organiser et qui c'est qui va réclamer que l'organisation soit adaptée à leur petit luxe. Et on sait très bien qui c'est qui va demander à ce que le changement ne soit pas violent et que on puisse accepter que leur adaptation à l'organisation puisse se faire en semaine, en mois, le temps que ça soit facile pour eux à vivre. Là où nous, on aura une vraie obligation d'agir dans l'urgence et de faire les choses rapidement. Et que forcément, dans la démarche, on risque d'être unsafe et problématique assez souvent. Mais que bon, merde, en fait, c'est leur définition de unsafe, c'est leur définition de problématique. Et que en attendant, pendant qu'eux, ils prennent le temps de s'adapter et de se vanter de faire du collectif et de se vanter de faire des choses pour les autres, voilà, parce que c'est aussi une réalité, hein. Ils vont pouvoir se vanter d'avoir fait le choix de la marginalité de manière relative. Nous, pendant ce temps-là, bah, en fait, on n'aura pas fait le choix de la marginalité, encore moins, d'autant plus qu'on sera encore plus nombreux et nombreuses à avoir une obligation de manger dans les poubelles, de vivre en collectivité, alors qu'on aimerait avoir nos espaces personnels. Ces personnes-là vont en plus nous reprocher d'être unsafe et d'être violente, parce que justement on aura une nécessité de vivre dans l'illégalité et de faire des choses qui seront difficiles à faire pour survivre. J'espère qu'avec le confinement je vais réussir à devenir une meilleure personne pour les gens qui m'entourent, qui n'ont pas eu mon vécu et qui ont eu la chance, le hasard, d'avoir une vie bien plus douce. J'espère que le confinement me permettra d'être perçue comme un peu plus douce qu'avant. Mais c'est vrai que souvent, j'ai envie de hurler, j'ai envie d'exploser. J'ai envie de poser ma colère et de dire que oui, merde en fait. Je suis en colère. Ma colère, elle est saine. Elle vient de mon vécu. Elle vient de choses horribles que des personnes comme moi peuvent vivre dans l'invisibilité la plus totale. De nos vies qui n'existent pas dans le discours commun et que j'aimerais pouvoir mettre en avant, sans être vue comme trop différente, comme problématique, comme dangereuse, comme déviante. Des fois, franchement, les gens non violents, les gens qui ont la vie pour eux, les gens qui ont le temps de leur côté, j'aimerais pouvoir leur hurler dessus et les manger. Franchement.
De retour sur 88.4, vous êtes avec Waka et Polo. Avant de passer à la chronique de Polo, la chronique sociale, on va parler du communiqué du collectif des Rosiers. C'est un collectif d'habitants qui s'est monté, je vais vous lire un peu la description. Et ensuite, je vais juste rappeler qu'on l'a déjà partagé sur Facebook. Si vous voulez avoir des éléments, vous pouvez aller sur la page de Radio Galère ou sur la page de l'événement de l'émission. C'est pas une page, pardon, c'est plutôt un événement, donc qui s'appelle Confie-toi. Donc le collectif des Rosiers s'est créé le mardi 17 mars 2020 afin de réagir à l'urgence sociale et humanitaire dans laquelle se trouvent les familles les plus précaires et la cité des Rosiers dans le 13-14 depuis le début du confinement. Ce collectif est composé d'habitants des Rosiers, des enseignants, des écoles, du secteur, des travailleurs sociaux, des acteurs, actrices, associatifs, toutes et tous engagés à titre bénévole afin de proposer une aide sociale alimentaire aux familles les plus démunies. Et du coup, il y a une cagnotte que vous pouvez retrouver sur le compte de PayPal. Il y a aussi une cagnotte Litchi. Vous pouvez, si vous avez envie de les aider, faire un don de produits pour bébés, couches, lait, enfantine, petits pots, de protection menstruelle, serviettes hygiéniques, produits d'hygiène, gel douche, shampoing, dentifrice, des produits alimentaires, pâtes, riz, semoule, etc. Et aussi des bonbons pour les enfants. Donc, Polo, sans plus tarder, sans transition, on va passer à ta chronique. Merci.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et c'est de nouveau Polo pour le point de santé communautaire. Alors aujourd'hui, on va pas vraiment se concentrer sur Marseille, on va plutôt parler de ce qui se passe pour les personnes TDS, les jeunes LGBT, mais aussi les personnes racisées issues des quartiers populaires. Donc déjà, je commence par vous rappeler que si vous avez besoin de récupérer les informations que je vous ai données ces dernières semaines sur les numéros de téléphone à appeler, les points de distribution de nourriture, futur. Vous pouvez trouver toutes ces informations en photo, en JPEG, sur l'événement Facebook de l'émission radio. Donc je les reposterai, voilà, vous pouvez déjà les récupérer. Je vous rappelle aussi les fonds d'urgence pour les personnes TDS, puisque Marlène Schiappa a encore refusé les amendements proposés, ceux dont on parlait du coup la semaine dernière, voilà, ils ont été refusés, mais ça on en parlera plus tard. Donc je vous rappelle les fonds d'urgence, il y a le FAST pour les personnes trans, il y a la cagnotte Par et Pour qui est organisée par l'association Polyvalence, il y a la cagnotte de Ta Pote Pute, il y a aussi la cagnotte du Stras, la cagnotte de Griselidis pour les personnes qui sont sur Toulouse, la cagnotte de Cabiria pour les personnes qui sont vers Lyon, le bus des femmes pour Paris. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez appeler Autre Regard au 06 61 53 03 44, 06 61 53 03 44. Si vous avez besoin de nous joindre des assistantes sociales, un médecin ou un psychologue, si vous n'arrivez plus à supporter le confinement, et c'est important, comme on ne le répétera jamais assez. Vous pouvez aussi acheter la compilation de Pandemos qui est en soutien au TDS avec des super artistes dont ma colocataire ici présente. Voilà, donc c'est une compilation qui est à prix libre. Il y a plus d'une trentaine d'artistes et les sous seront reversés à la cagnotte du Eustras. Alors, je voulais aussi vous parler. La semaine dernière, on a relayé un texte qui avait été publié dans le Nouvel Obs. En fait, il se trouve que cette semaine, il y a eu beaucoup de remue-ménage par rapport à ce texte, et notamment Accept ST qui a publié un communiqué disant que les sources n'étaient absolument pas fiables. Et donc, du coup, il y a eu une demande d'éclaircissement de la part des associations de santé communautaire et du Stras sur le texte. Et en fait, il était porté par une militante abolitionniste. Et c'est aussi un texte dans lequel on trouve des phrases choquantes et assez stigmatisantes, mais c'était en même temps tellement grave de savoir que quelqu'un était mort et avait été enterré comme ça qu'on pouvait pas ne pas relayer. On retrouve aussi le même rapport sensationnaliste quand on se penche sur le décès d'une personne TDS, évidemment. Mais d'un autre côté, cet article était tellement choquant, tellement violent que tout le monde l'a relayé, toutes les associations l'ont relayé. Mais du coup, je vais vous lire quelques passages du communiqué d'Acceptes qui explique bien un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce texte-là. Donc, le 16 avril 2020, votre journal, parce que du coup, c'est un texte qui est... destiné à l'Obs. Votre journal a publié un article intitulé « Les prostituées du bois », signalant la mort d'une jeune femme appelée Nouchka. Cet article nous a beaucoup affectés et sous le choc, nous l'avons même partagé dans un premier temps, malgré certains contenus offensants et faits troublants, à cause de l'annonce terrible de la mort d'une collègue, faisant surtout confiance au sérieux de votre rédaction. Néanmoins, en cherchant à identifier la victime et ses proches pour leur venir en aide, nous ne sommes aperçus qu'aucune de nos membres exerçant au bois de Boulogne, ni personne au sein des associations partenaires, intervenant fréquemment au bois, et notamment Accept ST, donc l'association qui fait le communiqué, n'avait eu connaissance d'un tel décès, ni des personnes citées dans l'article, alors même que la victime est présentée comme vivant en France depuis 18 ans. Plusieurs éléments nous semblent à présent mettre en doute la véracité de son contenu et nous souhaitons donc les partager avec vous afin d'attirer l'attention sur vos processus d'enquête et de vérification de l'information. La seule et unique source pour cet article est Madame Katia de Brinon, une militante anti-prostitution, qui a annoncé ouvrir une ligne téléphonique pour recueillir le témoignage de victimes pendant le confinement. Elle explique avoir commencé en postant un message sur son compte Facebook et avoir reçu 7 appels dès le lendemain, puis environ 50 appels par jour depuis, dont ceux de prostituées qui ne parleraient pas bien français et dont elle ne sait comment elles ont eu son numéro. Il s'agirait donc d'une initiative personnelle et non professionnelle, bien que Madame de Brinon revendique une formation ancienne en psychologie. Étonnamment, les appelants accepteraient très volontiers la publication de leurs témoignages en ligne, à moins que ceux-ci soient publiés sans leur accord explicite. L'article dit que Nouchka aurait appelé Madame de Brinon à 3h du matin, alors que celle-ci affirme tenir sa ligne téléphonique en général de 15 à 2h. Le témoignage de Nouchka est à la fois très partiel, ne permettant aucun recoupement avec ce que nous connaissons, et à la fois très précis sur des faits qui sont typiquement des narrations prohibitionnistes concernant le travail sexuel. Par exemple, Nouchka aurait commencé à être prostituée par un proxénète à 14 ans, âge qui est régulièrement présenté comme l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au sein de la littérature anti-prostitution. Nouchka et ses deux autres collègues sont présentées comme des femmes d'Europe de l'Est, correspondant à un certain cliché, mais qui semblent plus improbables lorsque celles-ci sont présentées comme russes. Liva est présentée comme une jeune femme russe de 22 ans, tandis que Nouchka est un prénom russe. Or, à notre connaissance, s'il y a en effet des femmes roumaines exerçant au bois de Boulogne, nous n'avons pas rencontré ou eu connaissance de femmes russes, ce qui est surprenant, surtout si cela fait 13 ou 14 ans qu'elles vivent et exercent le travail sexuel en France, comme l'indique l'article. Les femmes russes que nous connaissons travaillent habituellement via des agences d'escorte ou en indépendante, sont éduquées, parlent davantage l'anglais que le français et s'organisent via des forums en ligne via lesquels des bénévoles russophones de Médecins du Monde sont en contact. Le témoignage de Nouchka dit que les clients sont toujours aussi nombreux malgré le confinement, ce qui ne correspond pas du tout à nos observations ni au témoignage des collègues Dubois. L'article explique que les appels téléphoniques ont été interrompus abruptement et qu'ils étaient réalisés à partir de cartes prépayées, ne permettant pas de les rappeler. Là encore, cela ne correspond pas du tout aux expériences associatives que nous avons avec les collègues qui nous téléphonent, y compris lorsqu'elles sont victimes d'exploitation. Je vais peut-être pas vous le lire complètement en entier parce qu'il est assez long, mais du coup, elle note toutes les incohérences qu'il y a dans le récit. Et qui sont remontés au bout de quelques jours. Par exemple, que Liva cherche sa fille près de la mer, mais qu'elle ne savait pas qu'il y avait plusieurs mères en France, ce qui est quand même assez improbable. Enfin voilà. Mais du coup, je vais quand même passer à un autre point de l'article. L'article dit que ces femmes restent sans aucun soin au point de mourir dans le bois, survivant dans des tentes mobiles. Or, plusieurs associations, notamment en santé communautaire, interviennent régulièrement au bois de Boulogne et accompagnent les personnes vers les soins, les aidant à accéder à l'aide médicale d'État pour se soigner lorsqu'elles sont sans papier. Aucune association n'a à ce jour connaissance de ces femmes russes vivant dans des tentes, alors que les tentes sont a priori plus facilement identifiables. Enfin, l'article informe de la mort de Nouchka, expliquant qu'elle a été enterrée dans le bois puis recouverte de feuilles. Habituellement, nos associations sont très rapidement informées après la mort d'une collègue, puisque c'est le genre d'information qui circule très vite. Un corps sans vie dans le bois est généralement un motif d'intervention de la police. Les travailleuses du sexe, si elles n'appellent pas la police, appellent des collègues ou des associations et cherchent à se faire rapatrier le corps au pays. Aucune des associations intervenant sur le bois n'a constaté ou obtenu une telle information. Et depuis la publication de cet article, Madame de Brinon a publié une clarification sur sa page, manifestement après des critiques concernant ces témoignages. Celle-ci explique dorénavant qu'après avoir appelé 3 commissariats et n'ayant aucune information sur les faits, l'identité et l'identité réelle des victimes, ce serait peut-être un canular. Par ailleurs, nous voudrions dénoncer certaines expressions de l'article très stigmatisantes à l'égard de notre communauté. Le fait de parler de meutes concernant des êtres humains nous choque, tout comme le fait de les présenter comme des bombes à retardement qui sèment la mort. Cela est indigne d'un journal comme le vôtre et mérite des excuses. Nous vous appelons à rédiger un article rectificatif et à vous entredire sérieusement avec votre journaliste. Emmanuel Azinon, qui a contacté par téléphone, confirme avoir basé son article uniquement sur le témoignage de Madame de Brinon, sans aucun recoupement avec d'autres sources. Et du coup, ça pose aussi la question de pourquoi les associations de santé communautaire ne sont pas contactées, en fait. On se rend de plus en plus compte que c'est les abolitionnistes et c'est les prohibitionnistes qui sont toujours, toujours contactés, alors que les associations de santé sont sur le terrain, sont en contact avec les gens, avec des travailleurs pairs qui sont justement en contact avec le terrain. Et du coup, quand les journalistes ne contacte pas les associations, ça peut donner ce genre d'informations et qui ont choqué énormément de gens. Enfin, c'était assez terrifiant d'apprendre ça, et pour beaucoup de personnes TDS, cet article, ça a été très 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 violent. Mais bref, du coup, passons à autre chose, parce qu'il s'est passé aussi d'autres choses vraiment très très graves. Alors, sur la question des droits LGBT et des droits TDS, donc comme je vous en avais parlé, il devait y avoir des amendements qui étaient présentés le vendredi le jour où j'ai enregistré du coup la chronique, donc j'ai pas eu le temps de vous faire un retour. Les amendements ont été rejetés, que ça soit pour les jeunes LGBT ou que ça soit pour les TDS. Donc, par exemple, il y a eu un rejet des amendements qui visaient à protéger et à accompagner pour reloger les jeunes LGBT qui vivaient dans des milieux homophobes et transphobes. Et du coup, Giovanna Rincon, qui fait partie d'AcceptST et qui est sa fondatrice, explique pourquoi la situation des personnes trans et notamment TDS est extrêmement problématique en ce moment. Donc, je vais vous lire quelques extraits d'un article qui est paru sur le site des Actualités Sociales Hebdomadaires il y a 3 jours. Avec un entretien spécial avec Giovanna Rincon. Juste pour préciser, on a fêté le 4e anniversaire le 13 avril de la loi du 13 avril 2016, il y a eu des manifestations virtuelles qui ont été relayées par les médias, et ça s'est soldé notamment par des militantes TDS qui se sont fait harceler sur les réseaux. Donc, pour en revenir à l'article. En temps de confinement, les violences transphobes s'accroissent, en particulier à l'intérieur du foyer familial, selon les associations spécialisées. Mais leur prise en charge et les places d'hébergement d'urgence pour les personnes trans sont insuffisantes. Le 17 avril, le gouvernement a rejeté 3 amendements visant à renforcer ces dispositifs pour les jeunes LGBT+. Une vingtaine de députés ont adressé le 9 avril un courrier à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, afin de l'alerter sur la situation particulièrement préoccupante des jeunes LGBT+. En raison du confinement, ces derniers, parmi lesquels les hommes et les femmes trans, sont surexposés aux violences, aux situations de rupture familiale et aux risques de suicide, écrivent les députés. Pour Giovanna Rincon, directrice de l'association AcceptST et elle-même femme trans, les personnes trans multiplient les facteurs de discrimination. Un certain nombre d'entre elles sont migrantes et ou travailleuses du sexe, et le contexte sanitaire aggrave leur précarité et les stigmatise. Elle parle d'un cas, par exemple, d'une personne péruvienne trans et TDS sans papier qui était hébergée par un tiers à Colombes dans les Hautes Seine, et les voisins du bâtiment se sont réunis pour demander à l'hébergeuse de l'expulser. Giovanna Rincon a dû intervenir par téléphone pour leur expliquer l'urgence humanitaire, raconte-t-elle. La responsable associative témoigne aussi d'un récent contrôle policier alors qu'elle se trouvait avec deux personnes trans devant le local d'AcceptST à Paris. J'ai vu la camionnette de police passer puis fait demi-tour. Quatre policiers en sont descendus pour venir directement vers nous. Ils ont pensé que c'était un lieu de prostitution. Les publics perçus comme dangereux pour la santé publique sont ciblés et cette incitation au stigmate peut devenir très violente. Les violences intrafamiliales s'exercent quant à elles sur de jeunes adultes trans ou prennent la forme de violences conjugales. Ces situations sont de plus en plus nombreuses et plus concentrées qu'auparavant, estime-t-elle. L'enjeu de l'hébergement n'en est que plus fort et des personnes trans qui s'étaient réfugiées pour dormir au bois de Boulogne ont été chassées par la police. Les hôtels ont fermé, il nous a fallu trouver des hébergements solidaires, explique-t-elle. Les députés signataires du courrier adressé à Marlène Schiappa jugent que les services du 115 ne sont pas un dispositif adéquat, et notamment pour les jeunes LGBT+. Ils ne sont pas tous sans abri et nécessitent en outre une prise en charge similaire aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Les élus demandent à flécher une portion des 20 000 nuitées d'hôtels destinées aux victimes de violences conjugales vers des jeunes LGBT+, victimes de violences, voire à augmenter leur nombre afin d'y intégrer ce public. Les plateformes en ligne ainsi que les actions de prévention dans les pharmacies ou les centres commerciaux pourraient également être élargies. Interrogé sur les mesures à prendre pour les personnes trans, le secrétariat d'État de Marlène Schiappa indique ne pas pouvoir répondre à notre demande. Le 17 avril, 3 amendements visant à débloquer 120 000 euros pour l'hébergement d'urgence d'une centaine de jeunes LGBT+, déposés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2020, ont été rejetés par le gouvernement. Les personnes trans sont parmi les plus éloignées du système de santé et d'accès aux droits, rappelle Giovanna Rincon. À l'heure actuelle, la continuité des soins, les traitements hormonaux, initiation de transition et VIH est paralysée. L'équipe de médiatrices d'AcceptST oriente les personnes vers les médecins ou les pharmacies à même de répondre aux besoins. Ainsi, récemment, une femme trans migrante a été dirigée vers un médecin infectiologue à Nancy. Elle était depuis 2 mois en France et allait se retrouver en rupture de soins pour le VIH. Précise Giovanna Rincon. Les personnes trans sans papier se voient particulièrement exclues. Ce qui pénalise le plus les personnes face au Covid, c'est leur vulnérabilité sociale, résume-t-elle. Selon elle, la sortie du confinement devra être l'occasion de reconfigurer la prise en charge de la santé sexuelle et de rappeler que le soin social n'est pas à dissocier du soin clinique. Et donc voilà, on le répétera jamais assez, pour les personnes LGBT, le confinement, il est aussi à deux vitesses. On va parler maintenant de tout ce qui se passe dans les quartiers populaires, parce qu'il s'est passé aussi des choses extrêmement graves.
Du coup, désolée de t'interrompre, mais juste pour te dire que, avant de passer à ton deuxième sujet, peut-être qu'on peut faire une petite courte pause musicale, ou peut-être une grosse pause musicale. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Eh ben, pour rester dans le thème, moi j'aimerais beaucoup écouter la chanson de Waka et de Zelda qui s'appelle Afrofemme.
Je voudrais pas parler de moi, mais je veux pas faire comme les autres. Trouver un thème à théma, souligner tape la pose. Là-bas la fille facile, n'est-elle pas très docile ? Elle bat toujours des cils devant cette bande d'imbéciles. Oula, ça pique, peut-être une infection. Coton-tige dans l'urètre, pardon, dis-nous c'est qui le patron ? Ici le faux, le vrai se marie pour la vérité. Trop de contrariétés pour des cerveaux bien sirotés. Brainwashé, marketé, marchandé, secondé. Me disent de te tapiner, mais s'il te plaît sans la ramener. Je sens la plage et je pue la rage, bébé me crache au visage. Vas-y performe, suceuse, te cueille à la perceuse. J'ai le taser dans mes cheveux, oui c'est doux mais ne touche pas. J'ai mis ta sœur dans mon pieu, moi c'est foufou l'albina. Plutôt chaton que maton, Astacien plaît la prison. Et puis Bélec au mec qui exhibait ses suçons. Afrofemme et sur scène, prête à régler nos problèmes, prête à porter nos emblèmes. Afrofemme et sur scène, prête à régler nos problèmes, prête à porter nos emblèmes.
Je n'ai plus trop manif, dans mes poches un canif. Pour moi exister n'est rien c'est déjà milité. Je m'en balègue, des blancs becs, je ne baisse pas avec. On n'est pas dans la même dimension, pas la même perception. Le BM sont en HD, les miens en KD. Négra, je donne pas le lait, je préfère l'amour à la paix. Négra, je pense qu'à toi, parce que toi, c'est moi. J'ai mute qu'une michto, plutôt qu'aller à l'usine. Les couteaux sont bien au chaud, dans ma propre cuisine. Dans un monde équitable, j'aurais pu être respectable. Question de critères, pas de compétences, c'est ma sentence, elle est ta mère. Je suis bantou et Apple, dans pas la bonne gueule. J'ai trop d'amour pour nous, il en faut dans ce monde de fou. Tu sais, je t'aime tellement, le charbon est comme le diamant. Y'a pas assez de mots pour le dire, je prends toujours le meilleur du pire.
Afrofemme est sur scène, prête à régler nos problèmes, prête à porter nos emblèmes. Afrofemme est sur scène, prête à régler nos problèmes, prête à porter nos emblèmes.
De retour sur 88.4, vous êtes avec Waka et Polo. Avant de passer à la seconde partie de Polo, on va surtout parler de violence policière. J'avais envie de mettre un petit extrait juste pour illustrer ce qu'il va dire. Et je vais vous mettre l'extrait qui est titré du documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Je vais vous parler un peu vite fait. Le topo, c'est sorti très, il y a pas si longtemps, le 22 avril, donc il y a quelques jours. Du coup, ça parle de surveillance, quoi. Des caméras de Nice à la répression chinoise des égouts. Cette enquête dresse le panorama mondial de l'obsession sécuritaire avec un constat glaçant. Deux points. Le totalitarisme numérique est pour demain. Donc, ce documentaire a été réalisé par Sylvain Louvet. C'est pour Arte. Donc, on écoute ça. Et je vous invite à le voir.
Le Patriot Act étend considérablement les pouvoirs des autorités américaines. Le FBI est autorisé à fouiller dans les données personnelles, fiches médicales, relevés bancaires. La NSA a la possibilité de placer sur écoute, sans mandat, tout citoyen américain. Le gouvernement peut faire emprisonner n'importe quel suspect, indéfiniment et sans procès préalable. Le Patriot Act devait durer 4 ans. 18 ans plus tard, l'essentiel de cet arsenal sécuritaire est toujours en place. L'arrivée de Donald Trump marque une nouvelle étape dans la politique de surveillance américaine. L'avènement de la reconnaissance faciale.
We're going to be protecting people environmentally and safety-wise, but we're going to be moving it quickly, very quickly.
Dès le début de son mandat, il donne l'ordre d'utiliser cette technologie pour surveiller la totalité des passagers internationaux. La reconnaissance faciale fait son entrée dans les aéroports, les écoles et même les commissariats de police, où elle est utilisée dans le cadre d'enquêtes criminelles. Une contamination qui fait descendre les Américains dans la rue et force le Congrès à ouvrir une commission d'enquête sur la reconnaissance faciale. Durant les auditions, deux juristes vont ouvrir les yeux des parlementaires sur les dangers liés à cette nouvelle technologie, Nima Gouliani et Clark Garvey.
Comment allons-nous empêcher la création d'un état de surveillance? Comment protéger les libertés que nous accorde le Premier Amendement et ne pas se dire « je ne peux pas aller à cette manifestation de peur que mon visage soit scanné »
La reconnaissance faciale donne aux forces de l'ordre un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu auparavant.
En 2016, nous avons déposé des demandes d'accès à des documents publics dans plus de 100 juridictions à travers le pays, demandant simplement quelles données biométriques y étaient conservées. Et nous avons découvert que plus de la moitié des Américains aujourd'hui figurent dans une base de données de reconnaissance faciale utilisée dans les enquêtes criminelles, et ce uniquement grâce à leur permis de conduire ou à leur carte d'identité. Et ça, personne ne le savait. Ça nous a tous surpris.
Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Le Congrès n'a jamais autorisé le FBI à avoir accès à ces informations. Et les gens qui obtiennent leur permis de conduire n'ont jamais coché une case ou spécifié « je consens à être dans cette énorme base de données de reconnaissance faciale ».
Les deux femmes vont révéler l'une des défaillances les plus inquiétantes du système de reconnaissance faciale. Son incapacité à identifier correctement les personnes de couleur.
Une étude réalisée en 2012 par un expert du FBI a révélé que les taux d'erreur d'identification étaient plus élevés de 5 à 10% chez les personnes de couleur que chez les blancs. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Noirs, lorsqu'ils font l'objet d'une enquête, ont plus de chances de se voir accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis.
Dans un pays où le taux d'Afro-Américains tués par la police est 2,5 fois plus élevé que celui des blancs, cette révélation fait l'effet d'un électrochoc. Un dispositif appelé Recognition, vendu par le géant Amazon. Un logiciel testé dans 2 États que s'est procuré l'Association américaine de défense des libertés individuelles.
Ce que nous voulions faire, c'était tester le logiciel de reconnaissance d'Amazon, tester son efficacité. On a pris des photos des membres du Congrès et on les a comparées à une base de données de 25 000 photos d'identité.
En comparant les photos d'identité des députés américains avec une base de données de personnes fichées par la police, le logiciel d'Amazon a confondu 28 membres du Congrès, essentiellement des personnes de couleur, avec des délinquants.
Et 40% de ces fausses correspondances étaient des députés de couleur.
De retour sur 88.4, vous êtes avec Polo et Waka et on va passer à la chronique de Polo.
Alors de retour sur Radio Galère 88.4, on continue avec le point santé communautaire, associatif et un petit peu ce qui se passe en France. Du coup, après avoir fait le point sur ce qui se passe pour les personnes TDS, les personnes trans et les personnes LGBT, plus particulièrement, on va se concentrer sur les quartiers populaires parce qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Du coup, jusqu'à présent, par exemple, un chiffre, 10% des amendes et interpellations ont eu lieu dans les quartiers de Seine-Saint-Denis depuis le début du confinement. Donc c'est un confinement qui est vraiment à deux vitesses, on compte des morts. On compte des blessés, c'est de plus en plus insupportable, surtout quand on sait que les principales personnes qui sont exposées à la contamination du virus, c'est justement les personnes les plus précaires, soit celles qui sont à la rue, soit celles qui sont travailleurs, ouvriers, caissiers, agents de sécurité, livreurs pour les plateformes de livraison, et c'est toujours les personnes les plus pauvres et les personnes racisées. Et par exemple, le premier décès dû au Covid qui était à déplorer dans le secteur de la grande distribution, c'était un responsable de la sécurité d'un centre commercial d'Aulnay-sous-Bois. Il y a aussi une caissière qui est morte, probablement d'autres personnes qui n'ont pas été médiatisées. Du coup, malheureusement, la police française a déjà tué 5 personnes et fait plus de 10 décès... Excusez-moi. La police française a déjà tué 5 personnes et fait plus de 10 blessés graves depuis le début du confinement. Donc je vous avais déjà parlé de 2 personnes qui étaient mortes, dont une en Belgique. Et là, je vais vous faire du coup la liste des personnes tuées depuis le 8 avril et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc du coup, le 8 avril à Béziers, c'est la personne dont on avait parlé, qui s'appelait Mohamed, qui avait 33 ans et qui est mort au commissariat de Béziers vers 23h30 le mercredi 8 avril après son interpellation par la police municipale pour non-respect du couvre-feu. Du coup, on pense que c'est une nouvelle fois la technique d'immobilisation qui a tué aussi Adama Traoré. Au moins un des agents s'est assis sur l'homme allongé à plat ventre et menotté dans la voiture. Le 10 avril à Cambrai, la police veut arrêter 2 hommes qui, pris de panique car dehors sans autorisation de sortie, prennent la fuite. Les flics les prennent en chasse, puis en pleine ligne droite, la voiture part en tonneau au milieu de la route. Pas de caméra, pas de témoin, on ne saura jamais ce qu'il s'est passé. Pourtant, faire un tonneau au milieu d'une ligne droite avec aucun obstacle ne semble pas très cohérent. Le 10 avril à Angoulême, même scénario, Boris, 28 ans, est intercepté par les flics, sûrement lui aussi sans autorisation de sortie. Il prend la fuite, stoppe sa voiture, saute dans l'eau et n'en ressort pas vivant. On ne saura là encore sûrement jamais ce qu'il s'est passé. Le 15 avril à Rouen, un homme âgé de 60 ans est décédé en garde à vue dans la nuit du mardi au mercredi 15 avril au commissariat de police de Rouen. Le sexagénaire a été placé en garde à vue la veille en fin de journée pour conduite sous emprise d'alcool. Vers 5 heures alors, il est extrait de sa cellule pour être entendu, il fait un malaise. Et malgré les tentatives de réanimation, il décède. Le 15 avril à La Courneuve, un jeune de 25 ans est aperçu par la police à cheval dans le parc de La Courneuve, qui est fermé pour cause de confinement. Il s'approche de lui et, selon eux, le voit tenir un couteau. Le jeune aurait alors attaqué un cheval, suite à quoi les flics prennent la fuite et préviennent leur collègue à vélo qui l'encercle un peu plus loin. Selon eux, l'individu se serait jeté sur eux et il n'aurait eu d'autre choix que de lui tirer 5 balles, dont 3 en pleine tête. Comme d'habitude, on ne comprend pas comment 3 personnes entraînées et armées avec des lacrymogènes et tasers parviennent toujours à tuer quelqu'un de plusieurs balles. Voilà, en plus de ces morts, on a noté de nombreux cas de violences policières qui sont recensés. Le 7 avril à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, 6 policiers interviennent selon eux pour mettre fin à un rodéo en motocross. Au final, une intervention policière a blessé grièvement une enfant de 5 ans au LBD. Au cours de cette intervention policière, les autorités reconnaissent que les policiers ont procédé à 14 tirs de LBD et 9 lancés de grenades. Et du coup, c'est lors des échanges que la petite fille qui accompagnait son père pour descendre les poubelles a été atteinte en pleine tête. Le 15 avril, à Noisy-le-Grand, un policier qui n'était pas en service, incommodé par la musique trop forte d'un voisin, sort de chez lui pour le menacer. Le voisin rigole et monte le son. Le flic part chercher son flingue et retourne menacer son voisin. Selon lui, c'est au moment où il allait reprendre l'ascenseur que le voisin aurait foncé sur lui avec un couteau. Le flic aurait alors fait usage de son arme et tiré sur le flanc droit de l'assaillant. Il y aura des témoins, un autre voisin qui était venu demander à ce que le son soit baissé. Puis indirectement les autres habitants de l'immeuble. Et évidemment le flic s'est vanté auprès de ses proches d'avoir tiré sur son voisin. Bon, sur Snapjar. Le 18 avril à Villeneuve-la-Garenne, vers 23h, un jeune de 28 ans roule sans casque en direction de l'île Saint-Denis. Devant lui, une voiture banalisée roule sans gyrophare, ni rien ne laissant penser qu'il s'agit de la police. Au moment où le motard arrive à hauteur de la voiture, la portière avant droite s'ouvre. Ce geste serait réalisé de façon délibérée, assurent tous les témoins. Le pilote est alors fauché, il est éjecté de la moto et percute des poteaux et l'une de ses jambes est fracturée. Elle n'a pas été arrachée comme initialement indiqué. L'association de lutte contre les violences policières a quant à elle déjà enregistré 7 plaintes contre la police. Le 19 mars à Torcy, c'est Kems, 19 ans, qui a été agressé par des policiers. Il attendait un ami en bas de sa tour lorsque des policiers l'ont contrôlé. Il reconnaît qu'il n'avait pas d'attestation et qu'il a commencé par donner un nom fictif avant de décliner son identité. Et il s'est fait étrangler. Un policier lui a sauté dessus jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à respirer pendant que son collègue scande des insultes racistes aux témoins inquiets qui criaient par leur fenêtre. Le 19 mars à Aubervilliers, c'est Ramatoulaï, 19 ans, qui a été frappée, insultée et tasée par des agents alors qu'elle était sortie faire des achats de première nécessité pour son bébé âgé de 6 mois. Arrivée à proximité de son domicile et en présence de son petit frère âgé de 7 ans, Ramatoulaï a été contrôlée par 8 policiers qui décidèrent que son attestation manuscrite ne suffisait pas, le ton est monté et un policier a soudainement envoyé un coup de taser à la poitrine de la jeune femme. Elle a eu 5 jours d'ITT et des blessures psychologiques invisibles. Le 23 mars 2020, aux Ulysses, Yacine, 30 ans, a été tabassé par des policiers alors qu'il sortait de son immeuble pour aller acheter du pain. Il n'a même pas eu à présenter son attestation ou à justifier sa sortie, puisque les agents qui étaient déchaînés, selon son témoignage, l'ont directement pris à partie. Plaquage contre le mur, coup de pied, coup de matraque lui ont valu 5 jours d'ITT, une plainte a été déposée. Le 24 mars, Sofiane, qui avait oublié son attestation, a été pris de panique à la vue des policiers et a tenté de les fuir. Au lieu d'être arrêté et verbalisé, il a subi des violences physiques aggravées de la part d'agents de la BAC. Ce passage à tabac lui vaut 4 jours d'ITT et 15 jours d'arrêt maladie prescrits par un psychiatre. Un important traumatisme, une plainte a été déposée. 1er avril 2020, c'est Walid, 30 ans, qui a été tabassé par des policiers. Un déchaînement de violence qui lui a valu 16 jours d'ITT et là encore un important traumatisme psychologique. Il était sorti simplement s'acheter à manger et était en voiture lorsque la police l'a arrêté. Régulièrement contrôlé, il l'a fait remarquer aux policiers, a sorti son téléphone pour filmer l'interpellation. C'est là que les choses ont dégénéré, gazé, frappé, bloqué. Walid a subi de nombreuses violences auxquelles se sont ajoutées 48 heures de garde à vue pour outrage, rébellion et violence contre les policiers. Une plainte a été déposée. Le 4 avril 2020, au Lila, c'est Mohamed, 22 ans, qui a été passé à tabac par des policiers. Il a subi deux contrôles de la part des mêmes agents à quelques minutes d'intervalle. La première fois, il était en train de faire des courses pour sa grand-mère. Pris à partie par les policiers, il a finalement été relâché car tout était en règle. Mais quelques temps après, alors qu'il avait pris sa moto pour rentrer chez lui, il a été arrêté et menacé par les mêmes policiers. Il a tenté de fuir à pied, mais les policiers l'ont rattrapé. S'en est suivi une salle de deux coups qui lui a valu 7 jours d'ITT. Le 10 avril 2020, et là c'est la dernière personne dont on a entendu parler, c'est Mohamed, 26 ans, qui a été tabassé par des policiers. Pompier volontaire, il était sorti faire un footing tardif pour s'aérer l'esprit. Sur la route, il croise des habitants du quartier et les salue. C'est à ce moment-là qu'une voiture de police arrive. N'ayant pas leur attestation, plusieurs des personnes présentes se mettent à courir. Mohamed reste, il a son attestation et se dit qu'il n'y aura aucun problème. Mais le ton monte rapidement, alors Mohamed sort son téléphone pour filmer le comportement des policiers. Il est gazé au visage, à bout portant, s'en suivra une violente salve de coups. Un agent lui a même tiré sa capuche pour l'étrangler. Ce passage à tabac lui aura valu 10 jours d'ITT et un lourd traumatisme. Ses morts et ses blessés s'ajoutent aux 673 meurtres policiers recensés en 43 ans en France. Et du coup, comme on a pu le voir tout au long de cette chronique, le confinement, le Covid, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Si on est racisé, si on est pauvre, si on habite dans des quartiers populaires, si on est femme, si on est LGBT... et qu'on est dans des contextes violents, si on est trans, si on est TDS. Et du coup, encore plus aujourd'hui qu'avant, il faut qu'on soit solidaires. Bonne journée à vous, et c'était Polo pour le petit point d'actualité du Covid sur 88.4 Radio Galère.
De retour sur 88.4, vous êtes avec Waka et Polo. C'était la chronique de Polo, merci encore pour cette chronique. Vraiment, c'était clair, net, parfait, merci. Donc j'ai pas trop le temps de commenter, de toute façon je vais pas redire des choses que j'ai déjà dit auparavant. On connaît à peu près la situation, on connaît comment ça se passe, voilà, le racisme ne s'est pas terminé avec la pandémie, ni le sexisme, ni l'homophobie, ni la transphobie, etc., ni les oppressions, et ça a même en fait empiré. Donc on va se dire au revoir, mais avant de se dire au revoir, on va passer à la lecture sonore du collectif de Lyon, sept femmes merveilleuses qui ont lu Les Guerrières de Monique Wittig. Donc je lis entre parenthèses un peu ce dont ça va parler. Ce que Monique Wittig disait d'elle-même des guerrières. Donc entre parenthèses. Mon but a été de faire que les L arrivent comme un choc pour le lecteur. Comme une surprise, point virgule. Puisqu'elle tient tout le récit, il doit s'en suivre une sorte de désorientation. Le lecteur entre dans un livre, se trouve confronté avec une elle qui n'est pas familier, pas ordinaire, et qui est nouveau et héroïque. En tout cas, c'est ce qui m'a guidée, et l'espoir que ce elle pourrait... situer le lecteur dans un espace au-delà des catégories de sexe pour la durée du livre. C'est peut-être ici que réside l'utopie. Fermeture des parenthèses monolithiques. Quant à moi, je vous dis au revoir Polo, et bah, bon week-end, et merci à vous de nous avoir écoutés.
Les Guerrières, Monique Wittig, lecture à 7 voix, avril 2020.
Quelque heure que l'on fixe pour désigner le commencement de l'action, il faut se hâter de finir avant le coucher du soleil. On peut apercevoir le bas des échelles posées à terre. Le sommet est caché dans l'amoncellement des feuilles et des fruits. Les paniers au pied des arbres peuvent être pleins de cerises à ras-bord. Il y a des belles de Choisy, des cerises anglaises, des griottes, des marascas, des cerises de Montmorency, des bigodelles, des guignes. Elles sont noires, blanches, rouges, translucides. Autour des paniers, les guêpes, les frelons font un grand mouvement. Leur bourdonnement peut être perçu de quelque endroit de la prairie où l'on se trouve. Elles montent dans les arbres, elles descendent, les bras chargés de fruits. Certaines ont des corbeilles accrochées à la ceinture. Quelques-unes sont immobiles, à des hauteurs diverses, sur les échelons. D'autres se déplacent entre les branches. On les voit sauter à terre et se débarrasser de leur charge. Les rayons obliques du soleil passent sur les feuilles en les faisant briller. Le ciel est de couleur orange. Elles disent qu'elles exposent leur sexe afin que le soleil s'y réfléchisse, comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. On les voit courir à grandes enjambées. Elles sont toutes illuminées en leur milieu, à partir des pubis, des clitoris encapuchonnés, des nymphes doubles et plissées. L'éclat qu'elles jettent en s'immobilisant et en se tournant de face fait que les yeux se fixent ailleurs, n'en pouvant supporter la vue. Quand la lune est pleine, on bat le tambour sur la place principale. Des tréteaux sont dressés. On y dispose des verres de toutes les couleurs et des bouteilles contenant des liquides diversement colorés. Certains de ces liquides sont verts, rouges, bleus. Ils s'évaporent si on ne les utilise pas aussitôt que la capsule qui les bouche a été retirée. Chacune peut boire jusqu'à tomber ivre morte ou bien jusqu'à perdre le contrôle d'elle-même. L'odeur des drogues qu'on a laissé s'échapper des bouteilles stagne sur la place, écœurante, sucrée. Toutes boivent en silence, debout ou étendues sur les tapis déroulés dans la rue. Alors, elles font sortir les petites filles. On les voit se tenir à demi endormies, effarées, hésitantes. Elles sont invitées à user de leur pouvoir sur les corps étendus, geignants. Les enfants vont de l'une à l'autre en tentant de les éveiller, en utilisant des pierres, des seaux d'eau, en criant de toute leur force, s'accroupissant pour être à la hauteur des oreilles des dormeuses. Marthe Vivonne et Valérie Séru font un rapport. Elles disent que le fleuve monte tout droit entre ses bords. Les champs de fleurs sur ses rives sont entraînés par les eaux. Des corolles arrachées, à la renverse, tournoient dans le courant, chavirent. Il y a une odeur putride tout le long du fleuve. Le grondement, comme d'une écluse rompue, est entendu. Des barques retournées dérivent. Des arbres entiers sont emportés, leurs branches chargées de fruits traînant dans l'eau. Marthe Vivonne et Valérie Séru disent qu'elles n'ont pas vu de cadavres d'animaux. Elles disent que longtemps, sur le chemin du retour, elles ont entendu le roulement du fleuve, les heurts du courant contre son lit. Les promenades avec les glénures, tenues en laisse, ne se font pas sans mal. Leur corps long et filiforme repose sur des milliers de pattes. Sans cesse, elles essaient de se déplacer vers un autre endroit que celui où l'on est. Les yeux innombrables sont rangés autour d'un orifice géant qui leur sert de bouche en même temps qu'il leur tient le de tête. Une membrane molle et extensible la remplit, pouvant se tendre et se détendre, chacun de ses mouvements produisant un son différent. On compare le concert des glénures au fifre, au tambour, au coissement des crapauds, au miaulement des chats en rute, au son aigre d'une flûte. Les promenades avec les glénures sont interrompues à tout moment. La cause en est qu'elles s'enfilent systématiquement dans les interstices qui peuvent donner passage à leur corps, les grilles des jardins publics, les grilles des égouts, par exemple. Elles y entrent à reculons, le volume de leur tête les arrête. À un moment donné, elles se retrouvent coincées, elles se mettent à pousser des cris épouvantables. Il faut alors les dégager de là. Aimé, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmonde, Gêne, Herminie, Kika, Aurélie, Évangeline, Simone, Maximilienne. Elles disent que dans le féminaire, le gland du clitoris et les corps du clitoris sont décrits comme encapuchonnés. Il est décrit que le prépuce, à la base du gland, peut se mouvoir le long de l'organe en provoquant une vive sensation de plaisir. Elles disent que le clitoris est un organe érectile. Il est décrit qu'il bifurque à droite et à gauche, qu'il se coude, se prolongeant dans deux corps érectiles appuyés contre l'os pubien. Ces deux corps ne sont pas visibles. L'ensemble est une zone érogène intense qui irradie tout le sexe en en faisant un organe impatient au plaisir. Elle le compare au mercure, aussi appelé vif-argent, pour sa promptitude à se disséminer, à se propager, à changer de forme. Daniel Nervi, en creusant des fondations, a détaillé un tableau où est représentée une jeune fille. Elle est toute plate et blanche, couchée sur le côté. Elle n'a pas de vêtements. Les seins sont à peine visibles sur le torse. L'une de ses jambes, repliée par-dessus l'autre, fait monter haut la cuisse, cachant ainsi le pubis et la vulve. Ses cheveux longs lui dissimule une partie des épaules. Elle sourit. Elle a les yeux fermés. Elle est à demi appuyée sur un coude. L'autre bras forme une anse au-dessus de la tête, la main tenant près de sa bouche une grappe de raisin noir. Elle rit alors. Elle dit que Daniel Nervi n'a pas encore déterré le couteau sans lame et dépourvu de manche. Marthe et Fort a fait tous les calculs. Les ingénieurs se sont trompés. Ou bien l'eau qui parvient du versant des montagnes est insuffisante pour alimenter le lac au-delà du barrage, même par temps de crue. Ou bien elles ont fait une erreur sur l'emplacement de la construction qu'elles ont disposé trop en amont par rapport au point de réunion des cours d'eau. Tous les matins, les ingénieurs arrivent sur le barrage qu'elles parcourent en tous sens, marquant de l'empreinte de leurs pieds le ciment encore frais, de sorte qu'après leur départ, une équipe de maçonnes doivent s'employer à les faire disparaître. Certaines courent en tenant leur parapluie au lever, en donnant des ordres. D'autres se promènent tranquillement. Sur la berge du lac, ou de ce qui devait être un lac, les jeunes filles, en Bermuda, marchent en se tenant par la main. Elles disent que la déesse Eristikos a une tête d'épingle et des yeux jaunes. Elles disent que ce qu'aime la déesse Eristikos, ce sont les parfums. Pour l'honorer, on porte à même la peau des vêtements faits d'herbes odorantes. On les enflamme la nuit venue en mettant le feu à chaque brin. Elles sont disposées en cercle. Leurs vêtements, dans l'obscurité, sont incandescents. Elles se tiennent immobiles, les bras étendus de part et d'autre du corps. L'herbe, en brûlant, grésille et produit une odeur. Des fumées sont en train de s'éparpiller. Quand la chaleur atteint la peau, elles arrachent brutalement leurs tuniques et les jettent en tas. C'est ce qui fait qu'elles doivent sans cesse en fabriquer de nouvelles. Il existe une machine à enregistrer les écarts. Elle est posée sur un socle d'agate. C'est un parallépipède de peu de hauteur, au centre d'une prairie, semée de pâquerettes au printemps, en été de marguerites, en automne de colchiques blancs et bleus. Les calculs qui s'opèrent dans la machine sont à tout moment signalés par des cliquetis, des déclics, des sons aigus, des timbres tintinabulants, des espèces de bruits comparables à ceux d'une caisse enregistreuse. Il y a des lumières qui s'éteignent et qui s'allument, suivant des intervalles de temps irréguliers. Elles sont rouges, oranges, bleues. Les orifices qui leur donnent passage sont circulaires. Tous les écarts sont sans cesse enregistrés dans la machine. Une même unité les mesure, quelle que soit leur espèce. La position dans la prairie de la machine à enregistrer les écarts ressemble à celle d'une certaine fontaine gardée par des jeunes filles porteuses d'épées flamboyantes. Mais la machine n'est pas gardée, son abord est aisé.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. Blue-eyed
Calypso, Judith, Anne, Iso, Christa, Robert, Vlasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice, Ren, Idoménée, Guilhermina, Armide, Zénobie, Lesia. Elle rappelle l'histoire de celle qui a longtemps habité là où les chameaux passent. Tête nue sous le soleil, Clémence Mailleul a sans cesse invoqué Amaterasu, la déesse du soleil, en coupant ses cheveux en abondance, en se baissant par trois fois vers le sol qu'elle frappe de ses mains et en disant « Je te salue, grande Amaterasu, au nom de notre mère, au nom de celles qui vont venir. Que notre règne arrive, que cet ordre soit rompu, que les bons et les méchants soient abattus. » Elles disent que Clémence Mailleul a souvent dessiné sur le sol l'eau, qui est le signe de la déesse, le symbole de l'anneau vulvaire. Elles disent qu'aussi bien n'importe laquelle d'entre elles pourrait invoquer une autre déesse du soleil, Tzihuacotl, par exemple, qui est en même temps déesse guerrière. On pourrait par exemple, à l'occasion de la mort de l'une d'elles, se servir du vieux chant de deuil, qui est un chant glorieux. Elles chantent alors tout ensemble. « Fille forte et belliqueuse, ma fille tant aimée, fille vaillante et tendre petite colombe, madame. » Tu as fait des efforts et travaillé comme une fille vaillante. Tu as vaincu. Tu as fait comme ta mère, la dame Tzihuacotl. Tu as combattu avec vaillance. Tu t'es servi du bouclier et de l'épée. Lève-toi, ma fille. Va à ce lieu bon qui est la maison de ta mère, le soleil, où toutes sont pleines de joie, de contentement et de bonheur. Elles sautent sur des chemins qui vont vers des villages en secouant leurs cheveux, les bras chargés de cynocéphales, en frappant le sol de leurs pieds. Quelqu'une s'arrêtant arrache une poignée de ses cheveux longs et les fait s'en aller un à un sur le vent. À la façon des ballons que les petites filles lâchent les jours de fête, s'élevant dans le ciel, légers, inconsistants, filiformes, et se tortillant, ils sont soufflés vers le haut par le vent. Ou bien elles chantent ensemble une chanson qui comprend ces paroles, qui jusqu'alors m'a tété le bout du sein, un singe. Elles jettent alors tous les cynocéphales et se mettent à courir. Elles les poursuivent sous l'abri des bois jusqu'à ce qu'ils aient disparu dans les arbres. Elles disent « Comment déterminer un événement digne de mémoire ? Faut-il qu'Amaterasu elle-même s'avance sur le parvis du temple, le visage brillant, aveuglant tous les yeux de celles qui, prosternées, posent leur front sur le sol et n'osent pas relever la tête ? Faut-il qu'Amaterasu, élevant très haut le miroir circulaire, tonne de tous ses feux ? Faut-il que ces rayons, par le biais du miroir, incendient la terre sous des pas de celles qui sont venues rendre hommage à la déesse du soleil, la plus grande des déesses ? Faut-il que sa colère soit exemplaire ? Elles disent que les références à Amaterasu ou à Tzihuacotl ne sont plus de mise. Elles disent qu'elles n'ont pas besoin des symboles ou des mythes. Elles disent que le temps où elles sont parties de zéro est en train de s'effacer dans leur mémoire. Elles disent qu'elles peuvent à peine s'y référer. Quand elles répètent, il faut que cet ordre soit rompu. Elles disent qu'elles ne savent pas de quel ordre il est question. « Qu'est-ce que le début ?» disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles ressemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés, sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres à nul point ne peuvent s'accrocher. À la verticale, à l'horizontale, c'est la même glace, ni froide ni chaude, c'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur et il n'y a pas de passé. Elles se meuvent lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont ou elles viennent enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique de XX, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller. Leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Ido, Blanche, Valentine, Gilberte, Fausta, Monime, G, Bossy, Sophie, Alice, Octavie, Josiane, Gaïa, Deodata, Kaa, Vilaine, Ange, Frédéric, Patch.
Fugire non posso, fugire non posso.